À présent de vous faire écouter l'interview de Philippe Jeunion, un gros carolo bien connu. Je vous conseille son site www.jeunion.be pour découvrir son CV impressionnant. En tout cas, c'est à la table de son bar à vin, le Sac à Vin, que je l'ai rencontré. Je vous recommande cette adresse pour déguster des bons crus accompagnés de délicieux tapas. L'adresse, 66 rue de la Chapelle à 6030 Marchienne-au-Pont. Et pour la musique, c'est Afghan Connection que je vous fais découvrir avec deux morceaux, All Day et Puesta del Sol. Des petites perles trouvées sur Electrobel en Creative Commons. Bonne écoute. Voici donc l'interview de Philippe Jeunion.
Alors, Philippe Jeunion, 68 ans, épicutou, homme de vin, homme de bouffe, homme de baise, homme de mots, homme de rire. Homme de contradiction, homme de cynisme, homme de noir, homme de blanc, homme de gros, et homme de peu de cheveux. Charleroi d'avant, quand j'étais gamin, c'était Marchienne d'Aucherie. C'est le mot providence qui revenait le plus, providence, providence. C'était des fumées qui crachaient, des cheminées, pardon, qui crachaient des fumées orange, qui sentaient très mauvais, qui sentaient la proute, qui sentaient le soufre. C'était des fumées noires qui salissaient les murs, à peine les avait-on lavés. C'était des maisons qu'on n'osait pas peindre en blanc parce qu'elles se noircissaient en un an, ou qu'elles devenaient grisâtres, et le gris était triste à l'époque. Mais oui, mon enfance, c'était les charbonnages. Moi, j'ai vécu le racisme anti-italien dans ma jeunesse. J'ai connu cette affreuse chanson à la Mutuelle qui était vraiment... Je ne comprends pas comment on a pu même autoriser que ça passe à la radio, quoi. C'était un scandale absolu, cette chanson. Et puis, mon enfance, c'était aussi Charleroi sans le ring, sans le R3, avec moins de voitures, mais des embouteillages quand même, sans aéroport, avec des communes qui avaient chacun leur bourgmestre, le mailleur de Jumet, le mailleur de ceci, de cela. Ça, c'était mon enfance, c'était Charleroi de l'époque. C'est une Charleroi très industrielle, très, très ouvrier, très, très sur la notion de travail et pas encore celle de chômage, puisque c'est les années 60, donc les charbonnages étaient encore ouverts. Ensuite, les années 70, où là, évidemment, il y a eu le début de la crise et du chômage, mais quand on a 14 ans ou 12 ans, on s'intéresse beaucoup plus aux groupes de rock'n'roll qu'aux news qu'il y a à la télé et au journal. Donc, c'est une période où je n'ai pas vraiment vu ce déclin. Économique se passait parce que je construisais ma vie et voilà. Maintenant, que ce soit Dreamwall, les Asli Mapping, les morceaux de fusée, les avions, l'aéropole, les différentes nouvelles industries, etc. Et puis la réussite constante d'entreprises comme les éditions Dupuis, par exemple, qui ont quand même été un fleuron de la bande dessinée et qui le restent. Et Charleroi, c'est surtout une ville où il fait bon vivre. Les gens sont généreux, gentils, partageurs, ils ont le sens du rire, de la bouffe, de la boisson, du bon moment, afin de créer une joie et une beauté intérieure dans les cœurs qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans les paysages. Je sais pas, c'est compliqué, on peut pas tout faire en même temps. Donc, par exemple, le fait d'avoir rénové la place de la Digue, c'était bien, mais ça paraissait comme une île au milieu de l'océan sans qu'il y ait des ponts pour y aller. La place de la Digue, c'est bien, mais la rue du Grand Central, c'est une catastrophe. Enfin, au-dessus, bon, bah oui, il y a la friterie Robert, il y a l'ancienne gare qui sert à rien. Et c'est un espace qui pourrait être utilisé, cette gare de l'Ouest. Il y aurait moyen d'en faire quelque chose. Hein. À côté de ça, il y a toutes ces maisons de la rue du Grand Central avec ces restaurants pourris qui servent des moules dans des trucs en plastique. Et je ne sais pas, des agences de voyage, je ne sais même pas ce qu'il y a comme truc. Enfin, il y a un nouveau restaurant, heureusement, qui s'appelle L'Appétit, qui est très bon dans la rue du Grand Central, mais. Qui porte un grand nom, parce que le Grand Central belge, c'est quelque chose de très important. C'est la première ligne de chemin de fer privé en Europe, qui reliait les Houillères du nord de la France à la Belgique, Charleroi, jusqu'à Antwerpen. Et la VRT a d'ailleurs fait une série de reportages fabuleux il y a un an et demi sur le parcours du Grand Central. Donc c'est une rue importante, parce qu'elle menait un peu vers un symbole de richesse qui était le chemin de fer, quoi, la gare de, la première gare de train qui se trouvait au niveau du dépôt des trams maintenant. Enfin, l'ancien dépôt de trams maintenant où il y a les techs et tout le brôle. Mais voilà, donc cette place de la digue coincée là, entre ça et la rue d'Ampremille qui a toujours été un piétonnier au milieu de nulle part aussi, et les travaux au boulevard Thiroux avec tous les blocages que ça impliquait, et donc finalement pas beaucoup de gens pour y aller. Plus les problèmes qu'ils ont eu à l'ouverture, et maintenant on a l'impression qu'en dehors des grands événements style Vulva for Life ou Crime sur la ville, que parfois c'est un peu désert avec deux gosses qui jouent au skateboard ou qui tapent un ballon de foot, mais je sais pas si on espérait que ça allait devenir un grand forum où les gens allaient se rencontrer en lisant Socrate ou en débattant des derniers sujets à la mode, mais je sais pas, enfin voilà, maintenant il faut peut-être que les commerces renaissent, qu'autre chose se passe, que ça brasse et que la RTBF et Télécembre fassent leur nouveau bâtiment ou je ne sais quoi, mais bon, maintenant je pense que quand le boulevard Thiroux sera fait, enfin moins pas le boulevard Thiroux mais plutôt le centre rive gauche, que ça, si ça renaît, et que le cru de la montagne suit dans une forme de renaissance en espérant que ce soit encore possible, parce qu'entre les solderies et les magasins de chichi, comme on dit, on ne reconnaît plus trop cette rue qui était quand même un des fleurons commerciaux aussi de la ville, du centre-ville. Et ne parlons pas de la rue Neuve ou de la rue de la Régence, où là c'est dramatiquement périmé. Ben, on espère qu'on pourrait avoir un centre-ville cosmopolite et vivant et moderne. Maintenant, c'est peut-être pas la panacée non plus, parce que tous les centres-villes du monde se ressemblent. Il y a des H&M et des CEA et un McDonald's et un Starbucks, et on voit des gens qui se baladent en parlant dans leur smartphone ou en lisant un journal sur un banc. Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que la qualité d'une ville ne se retrouve pas plus autour des tables du Vecteur ou des tables de la brasserie de l'Éden, ou même des tables de la cuve à bière ou de ce sac à vin ou d'un autre endroit où les gens se rencontrent pour vraiment faire le monde et parler de choses et autres? Est-ce que c'est pas plus important ça qu'un centre commercial avec des enseignes comme il y a partout dans le monde, de Saint-Pétersbourg à Los Angeles? Je sais pas, je suis peut-être vieux.
Et une friche, 470 hectares. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en
feriez? Je sais pas. Idée, ce que les gens veulent en faire. Moi, je trouve que c'est pas vraiment aux villes de créer des espaces, c'est aussi aux gens de les. Ouais, ils peuvent créer des murs et des plafonds et des trucs, et puis après, à l'intérieur, les gens peuvent faire des trucs, quoi. Qu'est-ce qui manque à Charleroi? Je sais pas. Moi, je fais pas de skateboard, donc je sais pas s'ils font un skatepark. Des salles de cinéma, apparemment, il y a ce qu'il faut, puisqu'il va y avoir le K10 qui devrait s'inaugurer vers 2027. Et Ciné.com a été racheté par Gaumont. Vous avez vu, maintenant ils font des VO, incroyable. Hein, s'ils pouvaient remettre des sièges avec un seul accoudoir entre les deux sièges pour que je puisse y insérer mon cul comme avant, ça m'arrangerait bien.
Radio Métal, c'est toute la semaine en direct du Rockrill, de 13h à 16h.
Thank you.
de Charleroi, est-ce qu'il passe par l'industrie petite ou... Parce que c'est ça, il y a toujours le problème de dépolluer ou pas, abattre ou pas. Bon, il y en a qui veulent sauver le haut fourneau. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça fait partie du paysage ou pas?
Moi, je pense que chacun son métier. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de sauver la sidérurgie dans des pays où les gens qui y vivent ne veulent plus travailler dans ce genre de choses. La génération d'ouvriers qui y est, elle veut bien y travailler, mais ça, je ne pense pas qu'il y ait une génération de jeunes qui veut faire ce boulot-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait venir des Italiens il y a 100 ans et qu'on a fait venir des Marocains et des Turcs ensuite, ou qui sont venus tout seuls, j'en sais rien, mais c'est parce que certains boulots, il y a des Belgo-Belges, ils ne voulaient plus les faire. Donc, je pense qu'en Belgique, il y a plein de choses qu'on sait faire. On sait faire du fromage d'abbaye, on sait faire de la bière, on sait faire des bons légumes bio, on sait faire des fêtes foraines, on sait faire des ducasses, on sait faire des danses folkloriques, on sait faire des morceaux de fusée aussi, apparemment, etc. Donc, il y a certaines choses où il n'y a rien à faire. Par exemple, je suppose qu'il y a tellement de place en Russie que pour faire du blé et du froment et tout ça, c'est beaucoup moins cher chez eux pour faire ça. Et qu'apparemment, la sidérurgie, ben, c'est les Indiens qui ont récupéré ça, parce qu'avant, c'était les Scandinaves. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il fait froid chez eux, donc pour faire fondre du métal, ça doit certainement avoir plus d'énergie. Mais bon, apparemment, c'est Mittal, qui a quand même un nom prédestiné pour travailler le métal, et qui passe son temps à tout racheter, à tout remettre là-bas. Donc, ben, il faut les laisser faire. Qu'est-ce que tu veux foutre ? Il faut attendre que le prix de la main-d'œuvre en Inde monte, et après, que ça puisse de nouveau éventuellement être compétitif. Et injecter de l'argent dans les industries afin de sauver des emplois qui à terme seront quand même perdus, parce que regarde Caterpillar, ils ont fait des réductions machin, mais s'il y a un moment donné les mecs ils disent on est désolé mais on veut tout faire travailler, on veut faire fabriquer tout en Micronésie ou je ne sais où dans le monde où ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est un problème mondial, quoi. Je veux dire, ou bien les pays entre guillemets occidentaux décident de taxer à l'entrée tout ce qui vient de pays où la main-d'œuvre ne coûte rien, et à ce moment-là, évidemment, ça ne servira plus à rien de délocaliser. Mais si on ne prend pas ce genre de mesures qui sont évidemment contraires à la globalisation, machin, chouette bazar, bah voilà, c'est évident qu'à très grande échelle, c'est plus logique qu'ils fassent fabriquer dans des pays lointains. Regardez l'objet de luxe par excellence, l'iPhone vendu par les Américains, mais fabriqué en Chine par des petits enfants ou du moins du personnel extrêmement exploité. Et puis d'un autre côté, les gens vous diront oui, mais les Chinois ils rachètent tout, donc ils peuvent bien fabriquer les iPhones, tant pis pour leur gueule. Oui, d'accord, mais c'est un petit peu réducteur parce que c'est pas les mêmes personnes, quoi, les méchants Chinois riches et les pauvres petits Chinois qui fabriquent les iPhones. Enfin, d'un autre côté, ceux qui travaillent dans les usines d'iPhone sont probablement contents de travailler là parce que sinon ils n'auront pas de boulot, ils sont en train de gratter le sol pour trouver des graineries dans une rizière quelconque entre Canton et Macrobondaille. Donc, qui suis-je, moi, pour juger de l'intérêt ou de la capacité d'un Chinois à fabriquer un iPhone ou à gratter du riz, quoi.
Et la culture ?
Ah, la culture, ça, je crois qu'on est bien, on est franchement bien lotis. Hein. Il n'y a pas beaucoup de villes, je pense, où il y a qui se font traiter, vu de l'extérieur, de Nouvelle-Berlin et des choses comme ça. Hein. Je veux dire, c'est pas rien, hein, quand ils parlent de Charleroi, qu'on voit, bon, même si le rock reel commence un tout petit peu à s'embourgeoiser dans la musique de danse, etc., etc., et même si les gens disent que maintenant il y a de moins en moins de Carolo, mais de plus en plus de vendeurs de drogue qui viennent de France et ailleurs. Bon, ça reste quand même un endroit fantastique, une récupération du patrimoine industriel remis à jour et mis dans les mains des personnes et des Carolo et des artistes. Et on ajoute à ça le BPS22, le Vecteur, l'Eden et sa brasserie, etc., etc. Et plus les petits théâtres autour, Martin Roux et les compagnies de trucs machin, enfin à tout niveau, même au niveau humoristique, il y a le théâtre Poche, il y a la compagnie des machins et escarpins, calepins, baladins, et le théâtre de l'Ancre qui travaille très bien aussi, le PBA, de temps en temps, entre deux opérettes, fait encore un truc intéressant culturellement parlant. Et puis au niveau du folklore, c'est aussi une ville qui est fort riche. Il y a le carnaval, il y a les géants, il y a les ducasses, il y a des sociétés de gilles et des sociétés carnavalesques dans quasiment tous les villages autour de Charleroi. Donc je pense que culturellement, c'est une ville qui est bien. Quand on voit quelqu'un comme Greg Avo de Joshua part de Bruxelles et vient s'installer à Charleroi sous le nom de Kid Noise, et fait le succès qu'on voit, quand on voit tu vois, le Mochelan, même si au départ, j'aimais pas trop ces textes parce que je trouvais ça un peu simpliste. Au final, en ayant un peu écouté, on se dit que c'est quand même quelqu'un qui fait un très beau travail et qui reste centré sur Charleroi et qui parle de Charleroi. Et gens qui viennent faire des photos à Charleroi, je veux dire, c'est une ville extrêmement photogénique, donc ça ne va que dans le sens positif. De la culture et de l'art, il y en a tout plein. Des bons restaurants, il y en a tout plein. Des bars où on peut boire plein de bonnes bières et des bons vins, il y en a. Des bars où on boit des bonnes bières, il y en a tout plein. Des bons vins, il y en a un peu moins, mais enfin, ça commence à bien donner. Et puis voilà, il y a des auteurs, il y a des éditeurs, il y a des gens qui chantent, qui ont du talent, et puis il y a aussi Mémé Loubar. Non, il paraît qu'elle est gentille, mais bon, on va voir ça. Mais alors voilà, bon, après, il y a. Donc je pense qu'à ce niveau-là, à Charleroi, au niveau culture, on est vraiment bien. Au niveau art, le musée de la photographie est renommé dans l'Europe entière. Donc de quoi se plaint-on ?
Mais qu'est-ce qu'on faisait pour s'amuser il y a 10-15 ans alors à Charleroi ?
La drogue, principalement l'alcool, le sexe déviant, évidemment, enlever les enfants, vendre des organes. C'était très lucratif à l'époque d'ailleurs. C'est fort sympa. Moi j'ai une petite cousine qu'on a découpée en plusieurs morceaux et c'était assez sympa sur le marché du Caire. On a fait des bons bénéfices.
Vous avez pas l'impression que Charleroi est en retard. Ça par exemple, c'est des photos de la
tombe. Il y a beaucoup à faire. Mais en retard, oui. Dans le sens. Non, plutôt, je dirais plutôt tardif. Donc. Il faut quand même remettre certaines choses dans le contexte. Il y a 130 ans, je dirais globalement de 1760 jusqu'au début du 20e siècle, la Wallonie était la région la plus riche d'Europe et Charleroi était la ville la plus riche de Wallonie. Donc Charleroi était la ville la plus riche d'Europe. C'était un centre industriel d'une puissance sidérante. D'où de très belles maisons qu'on trouve à certains endroits dans Charleroi, en quai de Brabant, en quai de Flandre, sur les rues autour du parc, etc., ainsi que des grandes bâtisses un peu partout dans l'agglomération d'ailleurs. D'où aussi des monuments comme la ruche Verrière à l'Aulne-Linsart, dont la verrière originale malheureusement est cachée par cet affreux plafond en béton. Mais bon, ils n'ont pas d'argent pour la restaurer, donc ça ne sert à rien de la montrer si elle est encore là. D'où des réussites industrielles comme Solvay, comme Cockerill à l'époque, etc., etc. Puis il y a eu le Paris, c'est évidemment le charbon qui était le premier moteur, et puis après le Paris de passer à l'industrie métallurgique, sans savoir évidemment que l'avenir serait l'effondrement du charbon au moment où l'avènement du mazout est venu remplacer. Donc, au lieu de donner de l'argent aux houillères wallonnes, on va donner de l'argent aux pays arabes pour acheter du pétrole. Quelle bonne idée, on voit le résultat. Et puis après, de l'autre côté, le fait que la métallurgie s'est développée dans d'autres pays avec une main-d'œuvre nettement moins chère, et donc maintenant dans une situation, disons, de concurrence déloyale au niveau mondial, puisqu'il y a des pays dans lesquels les droits sociaux ne sont pas développés comme chez nous, et où on peut faire travailler des gens 12 heures par jour ou 14 heures par jour pour un salaire ridicule. Donc évidemment, on produit peut-être pas des aciers de la qualité de ce qu'on faisait chez nous, parce que c'était quand même au niveau qualitatif très pointu, mais suffisamment bon et moins cher pour subvenir aux gens qui veulent faire des buildings, en sachant que les buildings, on les tiendra pendant 20 ans ou 30 ans et qu'on va après les abattre pour faire quelque chose de neuf. Regardez à Las Vegas comme les hôtels ne tiennent. Les hôtels à Las Vegas tiennent 20 ans maximum. Après, ils sont démodés, ils ont moins de clients, on les abat et on construit quelque chose de plus luxueux, de plus grand, de plus haut pour réattirer de nouveau le client. Donc je pense que dans tout, c'est comme ça. Avant, on achetait une machine à écrire, ça durait 10 ans. Un ordinateur, ça durait 7-8 ans. Maintenant, bon, un ordinateur, c'est 2 ans, peut-être 4 maximum si on tire beaucoup. Les téléphones, c'est la même chose. Les véhicules, avant, on achetait une voiture, c'était pour 10 ans aussi. Maintenant, on la planifie en 4 ans, 5 ans, éventuellement. On planifie déjà le prix de revente au moment où on l'achète. C'est ridicule, et ça, c'est vraiment lié à cette histoire de croissance et de bénéfices et le commerce, la possession d'objets, l'accumulation de richesses. Moi, je suis quelqu'un qui a fait de la décroissance dans ma vie, pas dans mon corps. Moi, ça ne se voit pas beaucoup. Mais dans ma vie, oui, on est passé d'une société qui brassait beaucoup, beaucoup d'argent avec des factures de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et un salaire confortable, de passer à un petit bar à vin avec un petit chiffre d'affaires et un salaire de 600 euros par mois quand je peux me le payer. Et c'est un bonheur de tous les jours. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que la seule chose pour laquelle on milite, c'est le droit de s'amuser, de boire de la bière et de crier « Allez, le Sporting !» Mais je pense que justement, le fait de... Charleroi est une ville où les gens ont envie qu'on leur foute la paix aussi. Je crois que c'est ça. Charleroi, on les pointe du doigt partout. C'est la ville la plus laide du monde, c'est la capitale des baraquis, etc. Oui, c'est très bien, mais on s'en fout. Les gens qui... le jour, quelqu'un disait, à cause du reportage de Troïlo sur Charleroi, les touristes ne viendront pas. Et bien moi, j'ai dit, qu'ils ne viennent pas. Ça fera plus d'Orval à boire pour nous. Et voilà. S'ils viennent, ils rencontreront les gens. Et tous les gens que je connais qui sont venus de Flandre, de Bruxelles et d'autres pays à Charleroi, ont rencontré les gens. On rencontré les gens qui arrêtent au passage piéton, qui font bonjour quand on passe, qui vous donne un coup de main. Et puis il y a aussi évidemment des baraquis et des petits cons qui font des cambriolages et qui brûlent des voitures et qui foutent leur paquet de frites sur le sol et le mettent dans la poubelle. Mais il y a ça dans toutes les villes du monde. Il y a ça partout, et bien pire dans d'autres pays qu'à Charleroi. Et au fur et à mesure, on va quand même arriver à les tuer. Donc il faut absolument qu'ils légalisent le cannibalisme et qu'on ait le droit de tuer les cons sur la voie publique un jour par mois. Ou par an, au minimum, on peut essayer par an, et puis après on peut étaler à un mois. Donc un jour par mois, on a le droit de tuer les cons sur la voie publique. Donc tous les gens intelligents resteraient chez eux, bien entendu, et les cons s'entretueraient sur la voie publique, puisque les cons pensent toujours qu'ils sont moins cons qu'un autre con. Et qu'il y a des mecs qui pensent qu'ils sont moins cons, qui pourront aller tuer les cons, et donc ils vont se faire tuer par les cons et tuer les cons aussi. Mais derrière, il faut disposer des corps. Donc soit le cannibalisme, soit la possibilité de les moudre pour faire de l'engrais pour le jardin, par exemple. Ce serait très bien pour le chômage. Moi, je dis ça aussi, le cannibalisme, c'est intéressant pour les chiffres de la pension. Je dis, mangeons papy tant qu'il est encore frais. Pourtant qu'il soit d'accord. Je veux dire, bon voilà, mamie est morte, papy est tout seul, il s'emmerde, il n'a pas envie de faire son jardin. Et il dit au gosse, bon écoutez, voilà, on va me manger. Ça, vous hériterez. Ouais, c'est vrai. Paraît-il, c'est très chaud. Parce que j'ai toujours été corporellement lourd et j'avais l'impression qu'en montant sur les terris, je les détruisais. Parce qu'à chaque pas, je faisais descendre énormément de sédiments, enfin de sol. Et donc je me disais, plus je monte, plus ça descend et donc plus le sommet du terri doit descendre aussi. Donc je crois que je suis allé sur des terris 4 ou 5 fois dans ma vie, étant gamin principalement. Avec ma voisine, Madame Lecomte, qui nous emmenait en randonnée par-ci par-là, et avec quelques amis, et puis pour faire des photos au tout début d'agrumes, on est allé faire des photos sur les terris aussi. On n'est pas monté très haut. Mais par contre, je trouve ça magnifique l'initiative de mes amis Francis Pourcel et Micheline Dufer, qui ont créé le chemin des terris et qui essayent de promouvoir les chemins de randonnée à travers le patrimoine. Naturel et vert, noir et vert que sont les terris. Et c'est super. Ce qu'ils font, c'est vraiment une super idée.
Vous avez l'air confiant, optimiste.
Oui, je crois qu'il. Enfin. Je trouve ça totalement ridicule d'être pessimiste et de ne pas suicider. Si c'est pour être pessimiste, laisse tomber, quoi. Laisse la place aux autres. Je veux dire, flingue-toi, vends tes organes avant de nouveau, c'est un conseil. Ou fais-toi bouffer. Mais je veux dire, si t'es pessimiste, prends un compte Facebook et pose des têtes de mort. Mais je comprends pas, moi, les pessimistes qui continuent. Si on est pessimiste, il faut appliquer, quoi. Je veux dire, tout est foutu, c'est la merde. Au revoir, merci. Je vois pas l'intérêt, mais non, l'optimisme béat non plus. Ça va être génial, tout va être magnifique. On va vivre au milieu d'un monde génial où on sera tous des angelots qui tireront des flèches, on sera assis sur des nuages, on écoutera des poèmes, on boira de l'eau de rose. Ça va se faire chier. Ça va être épouvantable, épouvantable. Enfin, je crois que c'est beaucoup plus. L'enfer doit être plus fun que le paradis dans le sens si en enfer il y a du rock'n'roll et qu'on attache les gens sur des croix pour leur pincer les seins avec des trucs. Moi je suis pour.